Bien, frères et sœurs, je vous annonce une grande nouvelle. Un enfant nous est né. Oui, hier. Notre fille Sophie a donné naissance à une petite Noémie. Voilà, Noémie, ce qui veut dire en hébreu ma douceur, ma grâce. C'est pour ça qu'Hélène n'est pas là, puisque vous la voyez avec nos deux petits-fils, Jean et Mathieu. Enfin, vous la voyez de temps en temps, parce qu'elle les garde pendant que, bien sûr, Sophie, leur maman, est à la maternité, avec son mari et Noémie. Voilà. Merci pour vos prières, vous aviez prié. Vous aviez prié pour cet accouchement, jeudi soir, tout s'est très bien passé. Et voilà, toute la famille est bien contente et rend grâce à Dieu. Donc voilà, cela étant dit, maintenant nous allons passer à la parole de Dieu. Mais ça fait aussi partie des merveilles de Dieu, hein. Et comment? Je vous invite à méditer ce matin dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 6 à 28. Voilà, Adrien nous a déjà bien préparé à fêter Noël et vous allez voir que ce texte nous met aussi dans l'ambiance, même s'il continue à nous parler de ce personnage étrange dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière. Non, c'est pas le roi Venceslas, c'est Jean le Baptiste. Alors, Jean chapitre 1, versets 6 à 28. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe, la parole, Jésus, était la vraie lumière, qui en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Cette gloire que Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Jean lui rend témoignage et proclame « Voici celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a devancé, parce que avant moi, il était. » De sa plénitude, en effet, tous, nous avons reçu les grâces sur grâce. Si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. Et voici quel fut le témoignage de Jean. Lorsque, de Jérusalem, les Juifs envoyèrent vers lui des prêtres et des Lévites pour lui poser la question « Qui es-tu ?» Il fit une déclaration sans restriction. Il déclara « « Je ne suis pas le Christ. » Et ils lui demandèrent, « Mais qui es-tu? Es-tu Élie ? » Il répondit, « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ? » Il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu ? Que nous apportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? » Il affirma, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, « Aplanissez le chemin du Seigneur », comme l'a dit le prophète Ésaïe. Or, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils continuèrent à l'interroger en disant, « Si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète, pourquoi baptises-tu » Jean leur répondit, « Moi, je vous baptise dans l'eau. » Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Il vient après moi et je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de sa sandale. Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Ta parole est la vérité, Seigneur. Viens nous faire renaître par ta vérité. Amen. Alors, j'ai donc mes petits-enfants là qui nous écoutent en ce moment, enfin peut-être, à moins qu'ils soient en train de jouer au Lego ou au Playmobil, mais bon, ils écoutent quand même d'une oreille. Les enfants, vous savez, apprécient beaucoup, et là nous revenons au Noël alsacien, hein. Les enfants apprécient beaucoup les calendriers de l'Avent, hein, qui les aident à patienter dans l'attente du grand jour de Noël. Parce que la période de l'Avent est un temps d'attente, parfois même d'impatience chez les enfants. Mais dans l'Avent, nous n'attendons pas que Noël. L'Avent, et Adrien nous l'a fait sentir tout à l'heure, l'Avent éveille les aspirations les plus profondes du cœur humain. Qu'attendons-nous ? Qu'attendons-nous de la vie, de la société, du monde ? Qu'attendons-nous de Dieu ? Et tous, de diverses manières, nous avons soif de justice. Mais celle-ci paraît si loin, cette justice. Quotidiennement, les actualités nous décrivent les inégalités croissantes sur notre planète. Finalement, ça n'a pas beaucoup changé depuis le roi Venceslas. Il y a toujours ces pauvres devant nos fenêtres, ces inégalités qui se creusent de plus en plus, faisant des plus appauvris les premières victimes de la pandémie ou de beaucoup d'autres calamités. Où est la justice ? Quelle justice voulons-nous ? Le prophète Ésaïe proclamait, bien avant la venue de Jésus, au chapitre 61 de son livre. Comme un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Il annonce cette seule justice digne de ce nom, qui est la justice de Dieu. Et il la prophétise en faveur de tous les peuples. En ce temps de l'Avent, alors ne nous trompons pas d'attente. Le Père Noël ne rétablit aucune justice. Au contraire, il révèle encore davantage les écarts entre riches et pauvres. Jésus, quant à lui, nous lance un appel pour que ce soit toujours Noël. Nous serons heureux et rassasiés si nous avons faim et soif de justice, nous dit Jésus. Mais lui seul, le Christ, est capable de nous révéler le visage de la justice de Dieu. Alors, ne nous trompons pas de sauveur. Un nouveau président vient d'être élu aux États-Unis. Une élection, surtout quand elle concerne le plus puissant pays de la planète, est toujours porteuse d'illusions. Ah, enfin, tout va changer. Oh, mon œil, ce n'est pas certain du tout. Tout va changer, ah oui, vraiment. Le terrorisme, le coronavirus, la crise économique, le dérèglement climatique, les ventes d'armes, le chômage, les dictatures, les catastrophes familiales, tout ça va changer. Les illusions annoncent de toute évidence beaucoup de déceptions dans les mois à venir. Et c'est toujours comme cela. Un nouveau président, qu'il se nomme Joe Biden ou Donald Trump, qu'il se nomme François Hollande ou Emmanuel Macron, ne saurait tout faire. En fin de compte, peu de choses dépendront de lui. L'homme providentiel n'existe pas. Un président reste un être humain avec toutes ses fragilités. Il est détenteur d'un pouvoir somme toute fort limitée malgré tout ce qu'on en dit, et il est habité par le péché. Puissant de ce monde, il pourrait bien se retrouver rapidement assujetti à ce que l'apôtre Paul appelle les puissances de ce monde, ces forces qui cherchent toujours, et c'était déjà vrai du temps du roi Venceslas et de bien d'autres avant lui, ces forces qui cherchent à régir les sociétés humaines, l'argent, l'armée, le prestige, les idéologies, le paganisme, la débauche, les médias, etc. Elles restent au pouvoir du mauvais, au pouvoir du prince de ce monde. Alors continuons aujourd'hui, comme je vous l'ai dit et comme je vous l'ai lu, à faire connaissance avec ce personnage étonnant qu'était Jean le Baptiste. Complètement à contre-courant celui-là, complètement. Pas franchement à la mode, hein, vous avez vu comment il était fringué. Pauvre, seul, désarmé, consacré à Dieu seul. Et le prophète Jean savait combien le pouvoir pervertit. Avec son franc-parler, il n'hésitait pas à dénoncer les égarements des grands de ce monde. À l'époque, c'était Hérode, le fils de l'autre Hérode qui régnait quand Jésus est né. Et il le faisait publiquement, devant la foule qui venait l'écouter, et il le faisait sans crainte. C'est d'ailleurs ce qui l'a conduit à la mort. Jean était même suffisamment lucide et habité par la vérité de Dieu pour mettre ses auditeurs en garde contre sa propre personne. Non, il n'était pas la lumière. Sa notoriété pourtant était grande, au point qu'une délégation de prêtres et de lévites s'était déplacée depuis Jérusalem pour l'interroger, pour l'interviewer. Mais t'es qui, toi ? Les noms qu'on lui proposait étaient plutôt flatteurs. Élie, le prophète. Mais Jésus dira de lui, même Jésus dira de lui, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Et pourtant, ce Jean déclare sans restriction qu'il n'est pas l'accomplissement de l'espérance d'Israël. Il s'éloignait le plus possible des honneurs et des paillettes du pouvoir, qu'ils soient politiques, sociales ou religieux. Et dans sa fuite, dans son dénuement, dans le désert, il rappelait effectivement le grand prophète Élie. Par sa parole, il devenait la voix de Dieu, celle qui crie dans le désert, qui prépare le chemin du Seigneur, mais que nul ne veut vraiment entendre. « Toi, qui es-tu ? » lui demandent ses interlocuteurs. Et Jean le Baptiste de répondre, « Ne vous laissez pas impressionner, ne vous trompez pas de sauveur, moi je ne suis pas le Christ. » Il détourne les regards de lui-même. Sa mission est très importante, mais elle restera limitée. Il devait seulement, nous dit l'Évangile, seulement rendre témoignage à la lumière. Le salut du monde ne dépendra pas des puissants. Il ne dépendra pas non plus de Jean, qui était pourtant plus qu'un prophète. Mais alors d'où viendra-t-il ? Ce salut arrive. Il est tout proche. Jean dit, il est au milieu de vous. Et c'est toujours vrai. Jean en est le précurseur. Il l'annonce, il dit, il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient derrière moi. Moi, je ne suis pas digne de délier la lanière de sa sandale. La venue du Messie justifiait le baptême de repentance donné par Jean à ceux qui voulaient s'y préparer. La venue du Messie allait aussi en manifester le terme, la fin. Le lendemain, nous dit l'évangile de Jean, à Béthanie, au même endroit, prendra fin la mission du Baptiste. L'agneau de Dieu entrera en scène. Pourquoi donc baptises-tu ? Lui demandent les autorités juives. Mais pourquoi parles-tu aux foules ? Pourquoi invites-tu à la repentance si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète qui doit venir ? Et nous, frères et sœurs, pourquoi prêchons-nous encore l'Évangile depuis tant de temps ? Pourquoi fêterons-nous Noël dans cette salle et en visio ? Pourquoi célébrons-nous la scène ? Pourquoi célébrons-nous des baptêmes ? Pourquoi prions-nous ? Pourquoi sommes-nous réunis ce matin pour le culte ? Eh bien, nous le faisons pour la même raison que Jean le Baptiste. Parce que notre Sauveur s'est manifesté. L'Évangile nous rappelle aujourd'hui que la grâce, c'est-à-dire le don absolument gratuit de Dieu, et la vérité, c'est-à-dire la révélation en plénitude de Dieu, la grâce et la vérité sont venues à nous par Jésus le Christ. Et nous avons reconnu en lui celui qui détient seul la seigneurie sur le monde, celui auquel appartiennent toute puissance et tout honneur, celui auquel seul nous devons allégeance. C'est pour lui que nous avons opté, c'est pour lui qu'on vote, c'est lui que nous avons élu. Votez Jésus! C'est lui que nous avons élu. En lui, le Verbe, la parole de Dieu est devenue chair. La parole de Dieu, la révélation de Dieu est devenue notre propre chair. Il a fait sa demeure parmi nous et nous avons vu sa gloire. Les témoins qui l'ont vu en ont témoigné à travers ce livre qui a traversé les siècles et qui nous permet encore de le rencontrer, de le connaître, de contempler sa gloire. Ces paroles un peu difficiles de l'évangile de Jean ne font qu'exprimer l'événement de Noël. Dans l'enfant de Bethléem réside la plénitude de la vie de Dieu, la plénitude de son amour. Et de sa plénitude, nous dit Jean, tous nous avons reçu et grâce sur grâce. L'expression hébraïque, nous avons reçu toutes les grâces possibles et imaginables encore et toujours. D'où le cadeau de Dieu. Et si Jésus est devenu l'élu de notre cœur, si nous le reconnaissons comme notre seul sauveur, c'est parce que nous avons compris que lui aussi, lui d'abord, nous a élus. Lui aussi nous a élus. Il nous a choisis pour devenir les destinataires de son amour. À ceux qui l'ont reçu, dit l'Évangile, à ceux qui croient en son nom, à vous, il a donné le pouvoir de renaître en Dieu, de commencer une vie nouvelle et d'entrer dans la vie éternelle. Avec Jésus-Christ, l'amour de Dieu habite notre humanité et l'habite toujours pour la transformer. La justice n'est pas un programme politique, bien qu'il y en ait quand même qui soit plus ou moins proche de cette justice. La justice n'est d'abord pas un programme politique, de toute façon plus ou moins réalisable. La justice dans la Bible, c'est le projet de Dieu pour le monde. Le projet de Dieu pour le monde, c'est la lumière de la paix, de la joie, du salut qui est destiné à illuminer tout homme, toute femme. Et cette lumière, cette justice, elle porte un nom parce qu'elle s'est incarnée en une personne. Elle s'appelle Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Alors, Jésus en a montré le chemin. Pardonnez, toujours, sans vous lasser, pardonnez. Aimez, aimez toujours, même vos ennemis. Donne sans te lasser, donne à celui qui te demande. Et Jésus a accompli toute justice lui-même, dans sa propre vie bien sûr, de la crèche à la croix, par le don de toute son existence. Jésus est même, nous dit la Bible, devenu notre justice. Une expression assez curieuse. Jésus est devenu notre justice, oui, parce qu'il est pour nous l'agneau de Dieu annoncé par Jean le Baptiste. Il est le pardon de Dieu. Et parce qu'il vit en nous, il est en nous par son esprit. Il est la vie de Dieu et il est notre salut. Il est la résurrection et la vie éternelle en Dieu. Le prophète Ésaïe annonçait, toujours dans ce même chapitre 61 que je vous citais tout à l'heure, il annonçait que le Sauveur allait nous revêtir des vêtements du salut, nous couvrir du manteau de la justice. Tout à l'heure, dans la prière, Alain nous disait que nous avions revêtu le vêtement blanc. Peut-être certains sont dit, mais non, je ne suis pas venu en blanc. Le vêtement blanc, oui, dans la Bible, c'est le symbole de ces vêtements du salut qui nous recouvrent entièrement grâce au don de Dieu en Jésus-Christ, de cette justice, de ce projet de Dieu de nous aimer, de nous sauver, de nous transformer. Alors, humilions-nous de nos fausses espérances. Jean le Baptiste et Jean l'Évangéliste, hein, c'est un peu compliqué dans ce début de l'Évangile de Jean, il y a deux Jean et puis on les mélange. Hein. Il y a Jean l'Évangéliste qui écrit l'Évangile et qui parle de Jean le Baptiste. Alors, ces deux-là ne nous laissent pas le choix. Ils nous disent clairement que la lumière brille dans les ténèbres. Ça veut dire que ce ne sera pas toujours facile de la reconnaître, de la suivre, de la laisser briller. La voix a crié dans le désert. Elle a crié très fort dans le désert. Mais les ténèbres ont mis Jean le Baptiste en prison et l'ont décapité. Jésus était dans le monde, mais les ténèbres l'ont torturé et crucifié. Ce début de l'évangile de Jean nous dit que la lumière est venue dans son propre bien, dans ce monde qui lui appartient, et les siens, ce qu'elle aime, ce qu'elle est venue éclairer, ne l'ont pas accueilli. Ceci pour dire que la justice des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu, en tout cas, pas toujours. Humilions-nous alors de nos refus de la justice de Dieu. Et réjouissons-nous, parce que Noël approche. En Christ, la vraie lumière, celle qui éclaire tout être humain, est venue dans le monde. Jésus s'offre à nous pour nous ouvrir finalement le seul avenir possible. Le seul avenir possible, et en ces temps où on ne sait plus où on va, où on ne sait pas de quoi sera fait demain, où on n'est même pas sûr finalement de pouvoir fêter Noël dans cette salle dans quelques jours, a priori si, mais enfin, tout change si vite. Jésus s'offre à nous pour nous ouvrir la seule espérance, le seul avenir possible. Et l'Évangile nous dit que la vie éternelle, ce n'est rien d'autre que de le connaître, de commencer dès aujourd'hui à vivre avec lui. Nous le croyons, Jésus, en venant dans le monde, nous a donné la possibilité de devenir ses frères et ses sœurs. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est magnifique. Et Paul dira dans l'Épître aux Éphésiens, « Maintenant, ne vous inquiétez plus, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous l'êtes, ne le dites pas par orgueil, vous n'êtes pour rien. Dieu qui fait en sorte que vous l'êtes en Jésus. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors maintenant, vivez de cette lumière. Faites-la briller, vivez en enfant de lumière. Amen.
Amen.
Béni sois-tu, Seigneur, pour la venue de ton Fils en notre chair. Béni sois-tu, parce qu'en ces temps troublés, en ces temps où nous devons vivre presque au jour le jour, la semaine à la semaine, nous savons que nous pouvons de toute façon, quoi qu'il arrive, nous appuyer sur Jésus ton Fils, nous laisser remplir par ton Esprit, nous laisser guider par ta parole. Seigneur, tu nous appelles à être lumière dans le monde. Nous savons bien que nous en sommes complètement indignes. Et c'est pourquoi nous t'implorons. Nous avons besoin de ta grâce, de ton esprit. Renouvelle ce don en nous, Seigneur, jour après jour, pour que nous soyons simplement porteurs de ta bonne nouvelle, de ton pardon et de ton amour autour de nous. Amen.